RCF.
Bonjour. Je suis Thierry Lyonnais, grand reporter à RCF, et la marche est depuis des années l'activité que je préfère. Alors je suis allé tendre mon micro à des marcheurs, hommes, femmes, célèbres ou moins connus, qui eux aussi ont cette même passion pour la marche. Marche et rêve, un podcast pour tous ceux que l'envie de liberté démange. Bernard Olivier, vous êtes dans le monde de la marche et des marcheurs, une légende vivante. Vous avez réalisé une incroyable marche de 12 000 km d'Istanbul à Xi'an, en Chine, sur les routes de la soie, seul et à plus de 60 ans. Mais vous avez également fondé l'association Seuil, qui a pour vocation d'aider des jeunes en prison ou en rupture sociale à devenir des acteurs de leur réinsertion par une longue marche de 3 mois à l'étranger avec un accompagnateur, sans téléphone et sans musique. Alors Bernard-Olivier, nous allons parler des bienfaits de la marche dans un but de réinsertion. Mais j'aimerais que l'on parle d'abord de votre parcours et de votre première marche. Vous, le journaliste récemment retraité, vous décidez de partir marcher sur le chemin de Compostelle. Vous étiez dans quelle disposition intérieure à ce moment-là ?
J'étais désespéré. 10 ans avant, ma femme est morte d'une façon dramatique, un arrêt cardiaque en plein Paris. Ma femme est tombée dans la rue un 15 décembre. Le 24 décembre, ma mère est morte. Le 11 janvier, jour de mon anniversaire, ma femme est morte. Elle était dans le coma depuis. Et le 30 janvier, j'ai été licencié.
Donc, accumulation de.
En un mois et demi, le ciel m'est tombé sur la tête. Mais précisément, mes enfants, il fallait s'en occuper, quoi. Et donc, pendant 10 ans, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Plus d'ailleurs que quand j'étais salarié. Et c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai pris ma retraite. Et donc, arrive la période de la retraite.
60 ans à l'époque.
60 ans. Et là, je suis en pleine déprime. D'un seul coup, la perspective de n'avoir plus rien et pas de projet. Je fais une tentative de suicide. Et puis, passe 2 ou 3 mois, j'en réchappe, parce que je suis maladroit, et je décide de partir sur le chemin de Saint-Jacques, parce que je me dis que ça va représenter à peu près 2300 kilomètres depuis Paris, où j'habite à l'époque. Donc il me faudra au moins 3 mois, c'est ce qui s'est passé. Et je me dis qu'au bout des 3 mois, ou bien j'ai trouvé une réponse à mes questions, ou bien je refais ma TS, comme disent les spécialistes.
Tentative de suicide.
Voilà.
Qu'est-ce que vous vouliez faire, en fait, vivre vraiment sur ce chemin ? Vous aviez un projet, une idée précise ?
Pas du tout.
En partant ?
Pas du tout. C'était une fuite de tout le quotidien. J'avoue que je ne suis pas croyant et que donc c'était pas, je ne comptais pas sur Saint-Jacques pour s'occuper de moi. Mon seul projet, j'ai dit, quand je pars, je vais mettre 3 mois, 1 mois pour faire un bilan, pour me refaire le film à l'envers. Qu'est-ce que j'ai fait, comment, pourquoi. 1 mois pour essayer de trouver des projets. Et puis le 3e mois, je décide.
Voilà. Décide ce que je vais faire de ma vie.
Ce que je vais faire de ma vie. Voilà.
Et ça a marché.
Et ça a très bien marché.
C'est qu'elle
ça
dire,
a marché d'une façon extraordinaire. La première conséquence, c'est que les 22 premiers jours, il a plu. Donc, c'était pas. Et puis, c'était des mauvais chemins, parce que c'était pas vraiment des chemins officiels, si vous voulez.
Vous êtes parti d'où ?
De Paris.
De
la Tour Saint-Jacques.
Voilà, le grand classique.
Et même de chez moi, parce que théoriquement, on devait faire. À l'époque, les pèlerins devaient partir de chez eux. Donc, je suis parti de chez eux, mais je suis passé par la Tour Saint-Jacques. J'avoue que j'ai un peu triché, c'est-à-dire que j'ai pris le métro pour sortir de la ville, quoi, parce que sinon, c'était l'asphyxie. Mais ensuite, donc, je suis arrivé au bout d'un mois au Puy-en-Velay. Et donc, j'avais fait un bilan. C'était extraordinaire, d'ailleurs.
Vous vous sentiez mieux, déjà ?
En 3 semaines. En 3 semaines, les idées de mourir m'avaient complètement quitté. J'ai été en retraite le 30 mars. Je suis parti le 6 avril. Et donc, c'était les premiers beaux jours. Quand je suis parti, les cerisiers étaient en fleurs. Un peu plus loin, les cerises commençaient à mûrir. Et en arrivant à la frontière espagnole, ils étaient mûrs, quoi. Donc, je me suis senti très, très, très vite, à la fois moins angoissé, je dirais même heureux de ce bain de nature. Je n'ai vu qu'une personne, hein, entre Paris et un renard qui est parti dans mes pieds.
Entre Paris et le puits, une seule personne.
Oui. Ouais. En tout cas, une seule personne, un autre marcheur, ouais. Quoi, mmh. Et qui allait dans l'autre sens, d'ailleurs. Et puis, pendant ce premier mois, le matin, je me disais, bon, alors où est-ce que j'en étais hier à ma première communion. Ah oui, tiens, donc...
vous reprenez chronologiquement, quoi, vraiment.
Tout à l'envers.
Et la marche permet particulièrement bien de relire sa vie.
À condition qu'elle soit solitaire.
Oui.
Voilà. Si vous marchez avec des gens, vous pouvez aussi bien prendre le thé au salon du coin. Et, la marche n'a, je dirais, de prolongement intellectuel quel qu'il soit, qu'à la condition qu'on soit seul. Parce que quand on est seul, d'abord, on réfléchit beaucoup. Deuxièmement, on rencontre beaucoup de gens. Parce que les gens qui vous voient passer, si vous êtes deux, ils ne se mêlent pas. C'est un couple ou un groupe d'amis. Les gens qui disent « j'ose pas faire le chemin de Compostelle tout seul, je vais le faire avec une copine ou avec un copain », se gourrent complètement, quoi. C'est un chemin extraordinaire à condition de le faire seul. Parce que quand on marche seul, on réfléchit beaucoup. Et quand on arrive ou quand on rencontre, alors on a beaucoup de choses à dire. Et on parle beaucoup. Et je me suis fait des vrais amis sur le chemin de Compostelle.
Marche et rêve, un podcast RCF.
Bernard Olivier, qu'est-ce qui s'est passé dans une rencontre en particulier avec des Belges sur ce chemin-là? Cette rencontre, elle a été très importante.
Elle a changé beaucoup de choses. J'arrivais dans les monts du Forez et donc je prenais de l'altitude. Pour les gens qui font du chemin de randonnée, le chemin est tracé. C'est-à-dire, vous avez des signes, un trait blanc, un trait rouge, qui vous disent « tu es sur le bon chemin ». Et puis, quand vous arrivez à un carrefour, il y a une croix pour ne pas aller et un autre projet pour aller. Et donc, quand vous montez en altitude, alors ces traits sont à hauteur des yeux, c'est-à-dire sur des poteaux, sur des arbres, sur des barrières, pour que vous puissiez les voir facilement. Quand vous montez en altitude, on les met sur des pierres. Mais quand je suis arrivé dans les monts du Forez, il avait neigé et donc il n'y avait plus aucune trace. Et je me suis perdu. Et j'ai zoné un peu, comme ça, à droite à gauche. Et puis, un miracle, un type est arrivé avec un tracteur. Et je lui ai dit, il n'y a pas un endroit où je pourrais dormir. Il m'a dit, il y a une auberge pas loin. Donc, je suis allé à l'auberge. Et là, j'ai discuté avec donc le patron et la patronne. Et j'ai dit, écoutez, je ne vais pas dîner tout seul dans votre grande salle. Là, c'était encore en hiver. Hein, ils préparaient la saison. Et donc, je vais manger avec vous à la cuisine. Et le patron me dit, mais vous allez où avec votre grand sac, là? Je dis, je vais à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah, mais il y a 15 jours, il y a des Belges, des prisonniers belges qui sont passés. Ils étaient avec leur gardien. Ils étaient condamnés à faire le chemin de Compostelle. Alors, ça existait au Moyen-Âge.
Mais ça existe encore aujourd'hui.
Mais on dit que les Belges sont un peu lents, mais quand même pas à ce point-là. Non, c'est pas possible. Si, je vous assure. Renseignez-vous, vous verrez. Et je me renseigne. Et les jours qui suivent, et je finis par avoir la vérité. C'est-à-dire, effectivement, ce sont deux adolescents qui ont fait plein de bêtises et à qui un juge belge, donc intelligent, a proposé un marché simple. Pour aller à Compostelle, il faut 4 mois. Normalement, vous devez faire 4 mois de prison. Ben, si vous allez jusqu'à Compostelle, je nettoie l'ardoise. Mmh. Et j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé ça formidable parce que je venais de constater sur moi-même à quel point, physiquement, on se remet. Nous sommes fabriqués.
Physiquement et moralement aussi. Et moralement. Et psychologiquement.
Oui, 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 oui.
Vous étiez reconstruit, vous.
Bien sûr, bien sûr. Mais l'un provoque l'autre. C'est-à-dire que quand vous marchez tous les jours, vous rétablissez tout le circuit les plus anciens de l'homme. L'homme est fabriqué, chacun de ses muscles est fabriqué pour la marche. Donc vous allez, vous arrivez à une sorte de nirvana, où vous marchez, voilà, moi à 60 ans, je me disais, mais c'est formidable, j'ai marché 45 km hier, je ne suis pas fatigué. Parce que vous arrivez, et cette forme physique induit une forme mentale et une activité mentale beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes dans la situation du parfait, du corps sain, de l'esprit sain dans un corps sain. Et donc, j'ai trouvé cette histoire de Belge géniale. Et donc, j'ai doublé les étapes pour les rattraper. Moi, je voulais discuter avec ces jeunes. Donc, ils étaient 15 jours devant moi, puis 14, 15, 13, 12 ans. Et j'ai tellement doublé, marché vite, que je les ai doublés en Espagne, mais sans les avoir vus, parce qu'eux, ils campaient, moi, je dormais dans des gîtes. Et donc, on s'est raté.
Et alors là, ça vous a donné l'idée de créer une association?
Eh ben oui, j'ai trouvé formidable. Parce que précisément, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Je ne suis plus utile à la société, en quelque sorte, directement. Et en même temps, j'arrive à la fin de ma vie, quoi. Donc, combien d'années me reste-t-il à vivre? Je n'en sais rien. Mais j'arrive à la fin de ma vie. Et je ne suis pas en très, très bon état. À l'inverse, ces jeunes arrivent, eux, dans la vie, et ils sont en très mauvais état aussi. Et donc, pourquoi ne pas faire la jonction? Et je veux dire, très vite, je me suis dit, je vais m'occuper de jeunes en difficulté quand je vais être arrivé.
Et les aider par la marche.
Et les aider, ben, ça n'est venu qu'après, si vous voulez, parce que j'ai continué à marcher. Donc, j'ai d'abord pris des tas d'informations pour retrouver l'association qui avait créé ça, qui avait animé ça.
En Belgique.
Et puis, qui s'appelle Oikoten. Et puis, en même temps, j'ai décidé de continuer à marcher, puisque c'était aussi bien. Mais pas cette fois sur une route de j'allais pas aller. Je reconnais que le pèlerinage est quelque chose de très important pour toutes les religions. Hein. On va à la Mecque, on va à Lhasa, on va à Compostelle, on va à Rome. Je veux dire, la marche est reconnue en quelque sorte, mais maintenant même par le médecin. Mais là, je me disais, mais je viens de faire Compostelle, mais je n'ai pas eu reçu un message de Saint-Jacques et l'illumination. Donc, il me faut une route d'histoire, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. Et donc, j'ai d'abord pensé à la piste de Santa Fe, vous savez, des pionniers américains qui partaient de l'Ouest et qui allaient vers l'or de la Californie. Mais très vite, s'est imposé la route de la soie, quoi. Parce que ça, c'est vraiment, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux.
Alors Bernard Olivier, vous décidez non seulement de créer une association pour aider ces jeunes, mais vous décidez, vous, de continuer à marcher. Et vous avez fait cette grande route incroyable d'Istanbul à Xi'an, en Chine, en quatre grandes étapes. Ce que vous avez raconté dans vos différents livres, la Grande Marche. On ne peut pas tout raconter, bien sûr, de cet itinéraire. Il nous faudrait des heures. Mais j'aimerais comprendre avec vous, pourquoi vous avez fait le choix d'abord de partir sur cette route mythique de la route de la soie? Pourquoi ce choix?
Pour des raisons toutes simples. Premièrement, je venais de marcher 2300 km. J'ai regardé calmement, tranquillement, ce que c'était cette route qui n'est pas praticable en hiver. Et donc, il faudrait que je marche 3-4 mois par an. En 3-4 mois par an, je peux faire 3000 km. La route représente 12 000 km. Bah, je fais une division par 4 et puis voilà, ça fait 3 000 km par an pendant 4 ans.
Parce que vous ne pouviez pas marcher en hiver à cause de la neige, vous ne pouviez pas marcher en été par endroit parce qu'il faisait vraiment trop chaud.
Non, ça ne me gênait pas. Je supporte très très bien. J'ai marché par 52 degrés. J'ai traversé 3 déserts. Hein. Donc non, je supporte très très bien la chaleur. Par contre, j'aime pas du tout le froid.
Le froid.
Et en plus, dans l'est de la Turquie, en hiver, il y a 2 mètres de neige. Quoi, hein. Donc voilà.
Mais Bernard-Olivier, à regard humain de gens qui n'ont pas l'habitude de marcher, c'est une folie de partir à pied, seul, à 61 ans. Quand vous avez démarré, vous aviez 61 ans. Vous tiriez votre petite charrette. Et partir dans ces zones-là, c'est traverser de la Turquie, traverser de l'Iran, traverser de l'Asie centrale.
Ce sont des régions où la guerre n'a jamais cessé. Elle est toujours. Vous l'avez en Syrie en ce moment, vous l'avez en Iran, vous l'avez, elle est partout, la guerre. Depuis la nuit des temps, c'est une route dangereuse. Mais moi, j'ai eu une formule, si vous voulez. Pour faire un truc comme ça, il faut de l'inconscience pour partir et de la chance pour revenir. Et j'ai eu les deux. Je suis parti, je dois dire que je ne me donnais pas une chance sur 1000 de réussir. Mais au moins j'essaye. Et puis, deuxièmement, ben, j'allais aussi m'instruire, parce que l'histoire de la route de la soie, c'est 15 volumes. Hein,
instruire par la marche et pas après pas, parce que pour vous instruire, vous auriez pu très bien aller à la Bibliothèque nationale de France et vous plonger dans les livres.
C'est ce que j'ai fait.
Vous avez fait
ce que j'ai fait. Mais oui, parce qu'effectivement, à partir de ce moment-là, ma vie était séparée en 3 tronçons. Le premier, donc, préparer le voyage, les 3000 km suivants. Deuxièmement, écrire un livre sur l'année précédente, sur le chemin que je venais de finir. J'avais 3 mois d'écriture, grosso modo 4 à 5 mois de préparation et 4 mois de marche. Et pendant 4 ans, je n'ai fait que ça. Et en même temps, j'ai créé l'association Seuil.
Alors Bernard-Olivier, qu'est-ce qui vous faisait tenir dans la durée, dans cette grande marche ? D'Istanbul à Xi'an, vous avez fait des grandes étapes de 3 mois. Qu'est-ce qui vous faisait tenir ? J'essaye d'imaginer, vous traversez des zones désertiques, hein, vous avez traversé plusieurs... Qu'est-ce qui vous faisait tenir ? Il n'y avait pas grand-chose à voir, vous étiez seul, vous marchiez. Qu'est-ce qui vous faisait tenir ?
J'ai un côté breton, je suis né en Normandie, mais de parents bretons. Donc à partir du moment où j'ai décidé quelque chose, j'y vais. Deuxièmement, j'avais du plaisir. Donc, il n'y avait personne qui me poussait. Je me levais le matin, avant le soleil, et je commençais à marcher. Et je voyais le soleil qui se levait sur le désert. Mais c'est un spectacle fabuleux, quoi. Et donc, j'étais dans le bonheur permanent. Alors, la première année, je suis revenu sur un brancard, parce qu'il y a quand même des aléas. Hein. Mais... disons que j'ai failli laisser ma peau une ou deux fois, notamment pour un fou qui voulait me tuer pour prendre mes chaussures, des moments un petit peu difficiles. Mais au total, si vous voulez, ça a été du bonheur d'un bout à l'autre.
Et le bonheur était plus fort que les dangers, que la peur des dangers.
Oui, mais oui, bien sûr, parce que le bonheur, il est là, les dangers, il y en aura peut-être, mais bon, voilà. On ne va pas rester à la maison pour ça. Alors, c'est marrant, parce qu'en plus, je n'étais pas du tout conscient de faire... Parce que ce qui, finalement, c'est une première mondiale. Personne n'a jamais fait la route de la soie d'un bout à l'autre, seul et à pied. Mais c'est une fois que j'ai eu fini que je me suis rendu compte de ça. Mais disons qu'effectivement, j'ai pris une carte de chercheur à la Bibliothèque nationale et je me suis beaucoup, beaucoup inscrit. Et puis, j'ai complété ma connaissance donc, de l'histoire de cette route. Quoi, hein.
Bernard-Olivier, dans votre livre, dans un de vos livres, vous écrivez « C'est un exercice moins physique que spirituel
Absolument.
Que de marcher ».
Absolument.
Alors, vous qui êtes agnostique, j'aimerais que vous m'expliquiez cette phrase. Un exercice moins physique que spirituel que de marcher. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Et je crois que toute la spiritualité consiste à prendre, enfin c'est mon point de vue à moi, mais consiste à trouver des limites à nos pulsions. Et la marche vous oblige à trouver ces limites. Dans la marche, vous n'avez, enfin, vous marchez dans le désert, vous n'avez rien d'autre à faire que de penser. Moi, j'appelle ça, alors, ça va vous faire rire, mais j'appelle ça tutoyer les anges. Je marche et je réfléchis, je pense, ou je rêve, je chante, je me récite des poèmes, je suis très, très occupé.
Et ça vous donne de la joie, cela ?
Ah, complètement, complètement. Je vous dis, je chante, par exemple, quand j'ai vraiment la joie trop forte, je chante pour l'évacuer, quoi, parce qu'il faut qu'elle sorte, cette joie. Et puis, je fais des rencontres merveilleuses. Je découvre l'islam, que je ne connaissais pas du tout. L'extraordinaire hospitalité musulmane. Les gens qui... moi, je me souviens d'une famille où on m'a invité à déjeuner. On m'a apporté à déjeuner une assiette bien pleine. Et à côté, il y avait les deux gamins qui avaient presque rien. Et j'ai dit, mais il en reste là pour les enfants, ils ont déjà fini leur assiette. Non, on avait que ça. J'ai dit, bon, j'ai redonné une partie pour les enfants.
Quasiment tout.
Les gens vous donnent tout, quoi. Ils sont extraordinaires. Et je me souviens qu'un jour, le premier jour où j'ai été accueilli comme ça, le matin, je me suis réveillé, le monsieur était parti à la prière. À 5h, il est... Et je suis parti, moi, je ne veux pas l'attendre, j'étais trop pressé de repartir, et j'ai glissé un billet sous la porte. Et j'en ai parlé après à des gens, mais ils m'ont dit, mais il aurait vu ça, mais il t'aurait tué. Tu as été vraiment la honte de sa journée, quoi. C'est scandaleux. Comment as-tu osé faire ça ? Je dis, monsieur, je ne savais pas, quoi, je ne savais pas. Et donc, j'ai rencontré des gens mais merveilleux, extraordinaires.
Et le fait d'être marcheur et non pas d'arriver avec une voiture ou un 4x4, c'était important ?
Mais bien sûr.
En quoi ?
Eh bien, mais pour plusieurs raisons. D'abord, j'arrivais dans un village, si vous voulez, j'étais crasseux, transpirant, couvert de poussière, etc. Comme les gens qui était là, qui revenait des champs. Deuxièmement, j'étais un phénomène, c'est-à-dire que il y a un monsieur un jour qui m'a dit « J'ai 80 ans, tu es le premier étranger que je vois de ma vie. » Un jour, on racontera que peut-être...
Un étranger fou est passé voilà, par là, il marchait
c'est ça.
Pour aller en Chine.
C'est ça, voilà. Et donc, quand les gens me disaient « Mais où vas-tu ?» Je disais « Oui, je vais... en Turquie, je vais en Iran, et en Iran, je disais, je vais en Chine, et puis et les gens me disaient, mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça. As-tu une voiture ? Je disais, non, j'ai une voiture à la maison, mais il n'est pas question que je fasse en voiture.
Mais dans tous ces pays, ce sont les pauvres qui marchent. Les gens n'ont qu'un rêve, c'est de ne pas marcher, d'avoir une voiture.
Mais bien sûr. De la même façon, écoutez, moi j'ai connu ça, ma génération. Moi j'étais un petit fils d'ouvrier pauvre, on n'avait pas de voiture, on rêvait d'avoir une voiture. Et donc ces gens-là se disaient, il est cinglé ce mec, parce qu'il a une voiture et il marche à pied, quoi. Et en même temps, vous savez, si j'étais arrivé avec un 4x4, des Ray-Ban, un Stetson, vous voyez, donc le parfait touriste...
Fortuné européen.
Voilà, et ils veulent montrer, j'aurais agressé ces gens-là. Là, c'était l'inverse. C'était eux qui venaient à mon secours. Parce qu'ils se disaient que, voilà... Combien j'avais fait ? J'ai battu mon record avec 67 km dans une journée, donc et sans douleur, parce que voilà, j'étais dans une telle forme physique. Et je dois dire d'ailleurs qu'il y a une gamine de 15 ans et demi qui m'a battu en faisant 72 km en une journée. Donc je ne suis pas un
super-héros.
Mais si vous voulez, les gens m'accueillaient parce que j'étais. Et donc. On me demandait, les gens me disaient, je ferais bien la même chose, mais j'ai pas le budget. Mais quel budget ! Je ne dépensais pas un sou. La deuxième année, je suis parti avec 1 500 $. Et après 4 mois de marche, donc je ne sais combien de pays traversés, je suis revenu avec 1 200 $. J'ai dépensé 300 $, c'est-à-dire moins de 300 euros.
Parce que les gens vous accueillaient
Mais bien sûr. Et j'étais trop content quand j'arrivais dans une ville de prendre une chambre dans un hôtel parce que, pour une fois, je pouvais me coucher de bonne heure et je pouvais me reposer, alors que sinon, j'étais en représentation permanente. Les gens m'accueillaient, mais j'étais obligé de payer en racontant.
Marche et rêve, un podcast sur les bienfaits de la marche et pour tous ceux que l'envie de liberté démange.
Bernard Olivier, on pourrait parler pendant des heures de cette incroyable marche d'Istanbul à Xi'an en Chine. Mais j'aimerais qu'on parle maintenant de ce que la marche apporte à ces jeunes dits délinquants, je le mets entre guillemets, dont vous vous occupez, enfin vous et tous les membres de l'association Seuil que vous avez créée. Qu'est-ce que vous vouliez permettre à ces jeunes de vivre à travers la marche, grâce à la marche?
Eh bien, je voulais qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont perdus, qui sont ballottés à droite et à gauche. Souvent, ils ont vécu des moments très difficiles. Et donc, je me disais que la marche était sans doute un moyen de leur redonner de l'énergie, de leur redonner une direction dans la vie, et donc de les remonter dans leur propre estime. Et parce que la marche vous donne ça. Et donc,
c'est ce qui s'était passé pour vous.
C'est ce qui s'était passé
pour moi. Vous étiez désespéré avant de partir.
C'est ça.
Et là, vous avez retrouvé le goût de vivre.
Absolument.
Et vous avez dit, ça va marcher pour les jeunes.
Et ben voilà. Et donc, ça a été très difficile. Mais quand même.
Difficile dans quel sens?
C'était difficile parce que d'abord, le premier, quand je suis allé voir le directeur de régional de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, et que je lui ai exposé le projet, il me dit, vous faites quoi, monsieur Olivier, dans la vie? J'ai dit, bah, je suis journaliste, enfin, je suis journaliste honoraire. Il m'a dit, bah, faites du journalisme, l'éducation, c'est nous.
Et surtout l'éducation des jeunes délinquants, quoi.
Absolument.
C'est nous, vous y connaissez
absolument
rien, vous n'allez pas vous mêler de ça.
Voilà.
Donc il ne vous a pas fait confiance au début?
Pas du tout. Et donc, les deux premières années, ça a été une bagarre. Mais il se trouve que, précisément, mes livres et mon récit de marche faisaient un tabac. J'étais sur toutes les radios, sur toutes les télés, j'avais des pages et des pages dans les journaux. J'étais un héros au Festival des étonnants voyageurs à Saint-Malo, où il y avait des dizaines de gens qui faisaient la queue pour avoir une signature. Et donc, du coup, ça m'a ouvert des tas de portes que je n'aurais sans doute pas pu avoir. Et donc, peu à peu, on a réussi. Alors j'ai été rejoint par un certain nombre de gens formidables qui ont vraiment travaillé avec moi.
Vous avez quand même réussi assez rapidement à partir avec quelques jeunes sur des longues marches.
La première année, on est parti avec 2 jeunes. En plus, on nous obligeait à partir avec 2 jeunes. On a eu donc 2 jeunes qui ont marché. La deuxième année, on a eu 4 jeunes qui ont marché. L'année suivante, on nous a interdit parce que on considérait qu'on était des gens dangereux, qu'on envoyait des jeunes qui allaient faire des vols, qui allaient fuguer, et en plus qui allaient provoquer des problèmes diplomatiques, puisqu'on les faisait marcher en Espagne ou en Italie.
Et pas en France, ou les amener à l'étranger.
Voilà, c'est
ça. Couper quelque part de chez eux.
Pour qu'on coupe tout. Pas de téléphone, pas de musique, et plus de français, quoi. Donc, il fallait qu'ils se débrouillent. Et on a peu à peu, alors il y a eu donc une période très difficile, donc Madame Rachida Dati a interdit l'association, puis ça s'est arrangé, j'ai fait du chantage, en disant de faire une conférence de presse pour raconter. Et donc on nous a donc laissé faire, mais c'était très très difficile, jusqu'au moment où il y a eu un directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, s'appelle Jean-Louis Domas, qui est lui-même un marcheur et qui a très bien compris ce que la marche pouvait apporter. Et donc à partir de là, mais il a fallu 12 ans, la 12e année d'existence de l'association, on nous a autorisé à prendre autant de jeunes que on
vous pouviez, autant. C'est ça. Non. Et aujourd'hui vous emmenez combien de jeunes à peu près?
Alors chaque année à peu près 35, mais on voudrait en amener 80. Le problème c'est que on manque d'accompagnants.
Parce que il faut un accompagnant pour un jeune.
Oui.
C'est ça. Partir en binôme en fait.
Oui,
un accompagnant, un jeune.
Oui.
Et sur 2-3 mois.
Sur 3 mois.
Ouais, c'est pas une petite marche de 15 jours.
C'est vraiment une grande marche. Entre 1600 et 2000 kilomètres. Voilà.
Pourquoi c'est important de partir sur 3 mois comme ça?
Parce que, si vous voulez, la première semaine, c'est l'enfer pour les jeunes. D'un seul coup, ils sont coupés de tout. Ils n'ont plus de téléphone portable déjà.
Rien que ça, c'est
terrible. Ils n'ont plus leurs copains. Ils n'ont plus leur environnement habituel. Ils sont pas. Ce sont des gamins qui ont grandi dans le ciment, quoi. Hein. C'est dans les banlieues, il y a des fils de bonne famille aussi, hein. Mais ce sont des jeunes qui donc ont grandi dans la rue et qui ne connaissent que la rue. Et là, ils découvrent la nature. La deuxième raison, c'est que ils vont donc la première semaine, ils veulent pas se lever le matin. Ils résistent autant qu'ils peuvent. Le deuxième mois, ça s'arrange un peu, c'est-à-dire
le deuxième mois ou la deuxième semaine.
Le deuxième mois.
Il faut attendre.
Oui. Ah non, mais le premier mois, c'est l'enfer.
Il faut que l'accompagnateur soit solide.
D'ailleurs, on a des abandons, à peu près 10 à 15% d'abandons, c'est sur les 3 premières semaines. Donc il faut que les gens qui accompagnent, que ce soit des hommes ou des femmes, soient costauds. Et le deuxième mois, alors ça commence à s'arranger. Et puis le troisième mois, ça va tout seul. Ça va tout seul parce que ils ont intégré. Ils n'ont plus de la souffrance physique. Les premiers jours, on a des courbatures. En plus, ils veulent pas écouter ce qu'on leur dit. C'est-à-dire qu'ils boivent pas d'eau, par exemple. Ils veulent boire que du coca, quoi. Donc, ce qui est totalement contre-indiqué. Et donc, comme ils ne boivent pas d'eau, eh bien, ils font de la tendinite. Et donc, il faut leur refaire, voilà. Faut les faire avaler de l'eau presque de force. Et donc, au fur et à mesure, ils maîtrisent ces différents problèmes et l'obstacle physique est franchi. Reste l'obstacle moral. Alors, ils sont encore dans la l'ivresse qu'est la marge, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que être contre, c'est exister. Donc, ils sont contre la société. Ils ont une espèce de revanche, si vous voulez. Et donc, ils sont plutôt agressifs avec les gens, etc. Et en tout état de cause, ils restent bloqués dans leur enfance, c'est-à-dire que, ou dans leur adolescence. C'est-à-dire, pour eux, il y a deux types de personnes. Il y a les adolescents comme eux, et puis il y a les vieux. Et les vieux, ça commence à 20 ans, quoi. Donc tous ces gens-là ne peuvent pas nous comprendre. Et donc, ils vont peu à peu se reconstruire au physique, mais aussi, ils vont se regarder dans un miroir. Et ils ne vont pas se reconnaître.
Et quel miroir? Le regard de l'accompagnateur.
Mais bien sûr. Vous avez un jeune qui marche, il n'est pas forcément à côté de son accompagnant, hein, il marche tout seul comme ça. Et puis il y a un autre monsieur ou une dame qui est sur le chemin de Compostelle et qui marche et qui dit bonjour, bah dis donc, t'as l'air bien jeune toi, où tu vas? Eh ben je viens de la frontière et jusqu'à
Saint-Jacques,
1600 kilomètres, mais oui, ou même de, je viens de Séville et je vais jusqu'à la frontière, je passe par Saint-Jacques. Mais t'es formidable.
Tu es formidable.
Bien sûr, tu es formidable. Et ils disent, mais attends, c'est la première fois qu'on me dit que je suis formidable. On m'a jamais dit ça. On m'a raconté que dans un gîte, le responsable du gîte a entendu parler de ce gamin-là et il l'a fait monter sur la table et raconter à tous les gens qui étaient là. Et on l'a applaudi. Mais attendez, mais je suis de tôle, je suis un voyou ou quoi? Et donc, si vous voulez, la transformation, elle est là. C'est-à-dire que on donne à ces jeunes de l'estime de soi. C'est ce qui leur manquait.
Et eux trouvent l'estime d'eux-mêmes aussi,
mais bien sûr.
En marchant
mais
et
bien
en faisant
mais bien sûr,
cette
bien
grande
sûr.
Marche.
Bien sûr. Mais souvent, ils ont grandi avec des gens qui leur disaient « t'es un bon à rien, tu réussiras jamais rien, t'es un nul ». Un nul, on ne l'applaudit pas hein, parce qu'il est nul. On l'applaudit parce que c'est un héros.
Il y en a un qui a déclaré un jour, vous le citez dans votre livre, « Quand je suis parti, j'étais un blaireau. Quand je suis revenu, j'étais un héros. »
Voilà. Ça ne s'invente pas. Ouais. Je veux dire, même avec du talent littéraire, on ne va pas inventer un truc comme ça. C'est un gamin qui l'a dit. Et parce qu'effectivement, il revient avec une grande admiration pour lui-même. Et du coup, quand on est fier de soi, on peut parler avec tout le monde. Avant, on peut parler qu'aux voyous ou aux flics.
Ceux de sa bande, quoi. Aussi.
Voilà. Ouais. Voilà.
Et si vous pouviez résumer, Bernard Olivier, ce que la marche apporte vraiment d'essentiel à ces jeunes, comment vous formuleriez les choses? Là, vous avez dit déjà pas mal de choses, hein, l'estime de soi, mais comment vous pourriez nous aider à mieux comprendre encore ce que ça peut leur apporter?
Je crois une autre relation au monde. Ils se situent dans le monde, ce qui n'avait pas réfléchi à ça avant. Ils partaient du principe qu'ils n'étaient rien. Et à travers la marche, ils découvrent qu'ils sont des super sportifs. Et qu'ils sont dignes d'admiration. Quand vous avez ces deux certitudes-là, vous pouvez aller au bout du monde. Et donc, je pense que au retour de la marche, nous faisons une petite fête de retour. Et vous avez ces jeunes qui font un discours, qui s'affirment. Ils ont été transformés.
Vous avez des chiffres maintenant, depuis plus d'une vingtaine d'années d'expérience, vous avez des chiffres. Combien rechutent et combien s'en sortent vraiment?
Alors, nous n'avons pas fait nous-mêmes cette étude. Nous l'avons demandé à deux reprises à des sociologues de faire une étude complète. C'est-à-dire, après un an et demi, de retourner donc voir ces jeunes et de les questionner, de questionner les parents, de questionner les juges, de questionner les éducateurs. Nous pouvons affirmer, je dirais, que nous avons 15% d'échecs. C'est-à-dire de jeunes qui, ou bien ne vont pas plus loin, marchent pendant deux jours, on en a qui ont marché une heure, il y en a qui ont marché zéro minute, le temps qu'on aille leur acheter un short et une paire de godasses, ils se sauvent. On en a, je dirais, 10-15%, 15 autres pourcents qui retournent dans leur bande, mais très vite, le souvenir de ce qu'ils ont fait a changé leur vie, quoi. Et donc, ça n'a plus le même goût, la marge. Ça n'a plus le même goût. C'est mieux d'être un héros que d'être un voyou parmi les voyous. Quoi. Et donc, il y en a, je vous dis, 15% qui flottent encore un peu. Il y en a même, j'en ai un jour qui est revenu et qui m'a dit « j'ai refait de la prison, mais j'y retournerai plus jamais ». Parce que avant, j'avais fait de la prison et j'étais avec des copains. Là, cette fois, je suis retourné en prison et c'est tous des cons. Ils valent pas la peine. Je suis je suis mieux qu'eux. Et donc, je ne retournerai pas en prison.
Et donc, 60%.
60%.
Qui voilà, s'en sortent.
Ouais, c'est ça.
Qui ne veulent plus recommencer. C'est ça. Et qui ont été changés par cette marche.
Et le chiffre n'a d'intérêt que si on compare avec ceux qui sortent de prison directement. Où là, c'est effroyable. Il y a une étude qui a été faite, je pense, dans les années 2005-2006. Par le ministère de la Justice lui-même, vous avez, au bout d'un an, un an et demi, deux ans, vous avez presque 80% de récidive. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris. Ils ont été en prison. Les seuls qui ne récidivent pas, c'est ceux qui supportent mal la prison, c'est-à-dire les victimes, ceux qui sont sous la houlette des caïds et qui les font souffrir, quoi.
Bernard-Olivier, est-ce que vous pourriez dire, maintenant, avec tout le recul que vous avez, toute cette expérience, que la marche a complètement changé votre vie ?
Complètement. La marche, je veux dire, si je n'avais pas, d'abord, je serais mort. Deuxièmement, elle m'a apporté une richesse extraordinaire. Parce que, d'abord, elle m'a permis de créer et d'aider des gens dans la difficulté. Deuxièmement, donc, de rendre ma retraite utile. Et j'ai même écrit un livre qui s'appelle « La vie commence à 60 ans » où j'explique tout ça, c'est-à-dire ce changement extraordinaire qui a été induit par la marche.
Et ça, c'est vraiment la marche qui vous a induit
c'est
tout
la,
ça.
C'est la marche.
Et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous m'avez gentiment accueilli chez vous. On est en Normandie, près de Bernay. Vous avez 84 ans. Vous avez eu l'épreuve d'un cancer, un cancer des poumons. Pour un marcheur, c'est terrible.
C'est le plus grave, paraît-il.
On vous a enlevé, un poumon.
Oui.
Quel est votre rapport avec la marche aujourd'hui ? Vous êtes dans la nostalgie de la marche ou
non.
Vous pouvez encore marcher ?
Non. Alors, j'ai du mal à marcher. Je marche. Mais enfin, j'ai quand même, l'été dernier, j'ai quand même marché 140 kilomètres.
Ah, quand même.
Oui. Mais je n'aime plus les côtes parce que, avec un seul poumon, très vite, on s'essouffle. Hein, donc, dès que ça monte même un peu, c'est terrible. Disons que j'encourage beaucoup les gens qui n'ont pas le moral. Je leur dis, mais écoute, va marcher, mon gars. Va marcher, ma fille. Tu vas te refaire une santé. Je pense d'ailleurs que de plus en plus de médecins recommandent la marche. Hein. On est en train de changer de braquet, là. On a été dans la période de la bagnole, hein, de la mécanique. Et puis, le mouvement écologiste, les réactions des gens se sont aperçus que le bonheur, c'est pas d'aller à l'autre bout du monde, c'est d'aller marcher quelques kilomètres et de bavarder avec quelqu'un le long de la route.
Et aujourd'hui, c'est ce que vous faites.
Et c'est ce que je fais.
Vous marchez près de chez
J'ai
vous.
J'ai marché, voilà.
plus question de faire de grandes marches.
Je ne pourrais pas, je ne pourrais pas. Ça me serait impossible.
Et ce n'est pas une souffrance aujourd'hui ?
Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, moi, je suis pas... J'essaye d'être un peu philosophe. J'y ai eu une période, voilà. J'ai eu une constitution qui m'a permis de résister ça. Mm-hmm. Hein, parce que, voilà...
Il fallait tenir sur les routes la soie,
oui,
et dans les déserts.
J'ai une capacité de récupération qui est fascinante. Il y a une semaine, j'ai fait une chute. J'avais les deux yeux au beurre noir, etc. En une semaine, ça a été terminé. Mm-hmm. Voilà.
Bernard-Olivier, la marche, c'est bénéfique à tout âge, puisqu'on a parlé de ces jeunes qui sont adolescents ou jeunes adultes. Et puis vous avez commencé à marcher à 60 ans, à plus de 60 ans. Finalement, la marche, c'est bon à tout âge.
Absolument, c'est nécessaire. De toute façon, moi j'ai commencé aussi à marcher, même à courir, donc à 35 ans, parce que je fumais deux paquets de gauloises par jour, et qu'il fallait que je me retrouve un petit peu, j'ai réussi à arrêter, il fallait que je me retrouve un petit peu d'ampleur respiratoire. Hein. Et donc, j'ai été courir tous les midis pendant 2 ans, et finalement après j'ai fait des marathons, j'ai même fait deux fois des 100 kilomètres, donc je me suis rendu compte que j'ai une endurance sans doute un petit peu au-dessus de la moyenne.
Bernard-Olivier, vous m'avez gentiment accueilli chez vous dans votre longère normande. Juste là, derrière moi, au-dessus de ma tête, c'est le signe de Saint-Jacques de Compostelle qui est là,
oui,
ce carreau.
Oui, c'est la coquille Saint-Jacques stylisée qui est très belle. Là, elle est sur fond bleu et elle est jaune. J'ai trouvé ça parce que pendant que je marchais en Espagne, un jour, je suis passé dans une route, dans une rue, dans un village où les ouvriers étaient en train de décoller ces vieilles trucs-là pour remplacer par des jeunes, des nouvelles. Je leur ai demandé si je pouvais prendre cette truc-là. Mais c'est lourd, hein, elle pèse au moins 2 kilos, 2 kilos et demi. Donc dans mon sac à dos, je l'ai amené.
Oui, c'est un carré de mosaïque qui indique aux marcheurs
le chemin.
Et vous l'avez ramené ici.
Et donc je l'ai ramené ici. Elle est sur ma cheminée dans la salle de séjour et je pense souvent effectivement à ce chemin.
Merci beaucoup Bernard-Olivier de nous avoir accueillis, de nous avoir transmis tout ce que vous avez reçu par la marche. Puis je renvoie bien sûr à tous vos livres, notamment Longue Marche, hein, les 4 tomes que vous avez publiés chez Phébus. Et puis Marche et invente ta vie chez Artaud, où là vous développez vraiment ce que nous avons dit sur l'association Seuil. Merci Bernard-Olivier. Vous venez d'écouter Marche et rêve, podcast produit par RCF. Pour découvrir d'autres parcours de marcheurs, rendez-vous le mardi à 8h sur notre site rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts que je vous recommande, Souffle de vie, Les colères de l'abbé Pierre, La Fontaine et d'autres à découvrir partout, tout le temps, même en marchant. Bonne écoute et à très bientôt au détour d'un sentier ou sur les ondes.